La fourchette de l'actu. Prenez une bouchée d'actualité près de chez vous tout cet été avec La fourchette de l'actu.
Cette émission vous est présentée par Maxine Triano.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, La fourchette de l'actu. Concrètement, durant cet été, je vous propose tous les lundis une émission sur l'actualité de Montpellier et ses alentours. Alors, sans plus tarder, c'est parti pour 30 minutes ensemble. 5 milliards d'euros pour l'emploi. C'est l'annonce faite la semaine dernière par notre président d'agglomération, Jean-Pierre Moore. En effet, à partir de 2017, 5 milliards d'euros vont être investis dans de grands projets urbains. Parmi eux, le contournement Nîmes-Montpellier de la ligne à grande vitesse, la nouvelle gare de Montpellier Sud de France, le déplacement de l'autoroute A9, la cinquième ligne de tramway, mais aussi le prolongement de la première ligne, ou encore la réalisation du programme local d'habitat. En effet, ces objectifs offrent un potentiel d'emploi important. Alors, votée le 25 juillet dernier, la charte d'engagement pour l'emploi et l'insertion reprend donc tous ses points de chantier pour l'agglomération. Et grâce à ces constructions, Montpellier Agglomération compte bien fixer l'emploi en local, favoriser ainsi l'accès à l'emploi aux personnes en difficulté, mais aussi assurer une formation à des jeunes. Le comité de concertation des organisations professionnelles agricoles du Languedoc-Roussillon s'est réuni il y a tout juste une semaine. Créé en 2004, ce comité compte 70 membres, représentant à la fois les chambres d'agriculture, le syndicalisme agricole, les interprofessions viticoles, mais aussi les différents métiers situés en amont et en aval du secteur de l'agriculture, comme par exemple les vignerons. Unique en France, ce dispositif permet aux professionnels de l'ensemble des filières agricoles de bénéficier d'un espace d'échange et de partager une vision commune de l'agriculture régionale. Car comme vous le savez, l'agriculture et la viticulture en particulier sont des secteurs essentiels au développement de notre région. Concrètement, cette matinée de travail a été consacrée à la préparation du futur programme de développement rural à partir de 2014 et jusqu'en 2020. Enfin, les modalités exactes des décisions prises seront connues en fin d'année, lorsque le comité de concertation se réunira de nouveau. Loisirs maintenant et avec ces grandes chaleurs, pourquoi ne pas vous réfugier au frais au cœur du Goulfi de Montpellier dans le quartier près d'Arènes ? En effet, ouvert depuis seulement quelques mois, ce mini-golf intérieur et climatisé vous offre un parcours classique de 18 trous. Mais c'est là la seule chose classique de ce terrain. Caroline Lutegen est gérante du Goulfi. Elle nous explique l'originalité de son concept.
Les joueurs jouent en lumière noire, donc on n'est pas plongé totalement dans l'obscurité, puisque les décors donc, sont fluo, en 3D, et les joueurs donc, évoluent avec un putter fluo, des balles fluo, cartes de score fluo. C'est un jeu qui s'adresse à tout public, donc on peut jouer dès l'âge de 3 ans, et je dirais jusqu'à 99 ans. Hein. Les enfants peuvent jouer avec les parents, avec les grands-parents, les adultes entre eux, les ados. Donc c'est vrai que c'est quelque chose où personne n'est laissé pour compte, personne n'est spectateur. Tout le monde donc à sa place. L'originalité aussi de mon concept réside dans le fait que c'est un parcours pédagogique. On évolue sur un parcours banquise, suivi de l'océan, la jungle, pour finir sur les dinosaures. Le parcours est agrémenté donc de petites télés sur lesquelles donc sont retranscrits la vie des animaux donc menacés d'extinction, hein, puisque le thème est les animaux menacés d'extinction et les dinosaures. La dimension donc pédagogique a vraiment sa place pour enfants, adultes, hein, puisque je crois qu'on en apprend à tout âge. Donc tout est expliqué sur la fonte des glaces, la disparition des dinosaures, et puis je ne vais pas tout vous dévoiler.
D'ailleurs, pour Caroline, le mini-golf est sans aucun doute un loisir intergénérationnel. Et c'est aussi dans cette optique qu'elle a choisi pour thème les espèces menacées et les dinosaures.
Les dinosaures, c'est quand même quelque chose, je dirais, qui plaît énormément aux enfants comme aux adultes. Hein. Je crois que c'est quelque chose qui nous a tous, à un moment donné, de notre vie fascinés. Moi, la première, et mes enfants aussi, hein. J'avoue que c'est mon fils un peu qui m'a aiguillée là-dessus aussi. Et puis je trouve que sensibiliser les enfants et les adultes, ma foi, pourquoi pas aussi à l'extinction de certaines espèces, à ce qui se passe aujourd'hui avec la planète, la fonte des glaciers, ça m'a paru être une idée quand même aussi très sympa. Et allier le jeu avec ce côté un peu beaucoup pédagogique et sensibilisation des enfants, des adultes, encore une fois, aux menaces qui pèsent sur la planète, au niveau des animaux. J'ai trouvé ça plutôt sympa d'allier les deux.
Au mini-golf, les règles sont simples. C'est celui qui a le moins de points qui gagne la partie. Ainsi, le joueur prend le nombre de points qui correspond au nombre d'essais qu'il a tenté pour gagner le trou. Mais dans la limite de 6 coups, car au-delà, il marque forcément 7 points au maximum. Enfin, deuxième règle, à chaque fois que la balle sort de la parcelle de jeu, le lanceur prend un point de pénalité. Les règles expliquées, le jeu peut commencer. Et justement, du côté des parents, le charme semble avoir opéré.
Le plus impressionnant, c'est les décors, puis la luminosité qui est à l'intérieur avec les lampes néon violettes. Ça, c'est très attrayant, ça prend l'œil. Et c'est ce que j'ai trouvé d'original.
Les lumières, le décor, très très joli et c'est très plaisant à faire. Je leur recommanderais parce que c'est à voir et à faire.
Ce qui nous a plu, c'est le fait que ce soit dans le noir, que ce soit fluo. En plus, les vêtements, du coup, les nôtres étaient fluo aussi. C'est un mini-golf un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. En plus, moi, je fais de l'archéologie, donc du coup, c'était sur les dinosaures. En plus, les décors sont très jolis, donc c'est vraiment chouette.
Aujourd'hui, ce qui m'a plu, c'est d'être déjà au frais, faire une activité simple, être en famille, tout simplement.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est différent des mini-golf en plein air. C'est un contexte un peu inhabituel, donc je pense que ça vaut le coup de le faire au moins une fois. Et voilà, pendant les vacances, pour en profiter. Ouais.
Et concernant les enfants, ils ne sont pas restés sur leur faim. Aujourd'hui, tous sont sortis avec le sourire.
Sur les dinosaures, ça m'a vraiment plu parce que j'aime bien les dinosaures et que c'était bien. Là, il y a beaucoup plus de paysages, il y a beaucoup plus de trous et aussi c'est bien les obstacles.
Que c'était fluorescent et qu'on était dans le noir, que nos habits faisaient aussi fluo.
J'ai bien aimé le jeu et j'ai bien joué.
Au télé, on voit aussi le nom des animaux. J'aime bien le fluo, c'est rigolo et on s'amuse bien.
Enfin, le Goulfi de Montpellier est ouvert durant la période estivale tous les jours de 15h à minuit. Et vous pourrez également profiter dès la rentrée scolaire des joies du mini-golf, mais à des horaires différents. Et c'est pour cela que je vous invite à consulter leur site internet pour en savoir plus sur les horaires ou encore les tarifs. Donc leur site, c'est le www.goulfi.com. Vous pouvez également appeler directement le 06 78 78 04 93. Foire aux livres et vide-grenier du côté de la Grande Motte. Afin de récolter des fonds en ces temps difficiles, le Refuge de l'Arche des Animaux a décidé d'organiser tous les jeudis de ce mois d'août, de 15h30 à 19h30, une foire aux livres et un vide-grenier. Ces ventes auront lieu dans le quartier Haute-Plage, dans l'allée des écureuils de la Grande Motte. Vous ne savez pas comment occuper vos enfants intelligemment ? Emmenez-les à l'édition 2013 de la Nuit des Étoiles. En effet, la nuit du 9 au 10 août prochain, des dizaines d'étoiles filantes viendront zébrer le ciel. À cette occasion, le planétarium Galilée de Montpellier Agglomération propose deux journées d'animation gratuites. Vendredi 9 et samedi 10 août, des séances spéciales de planétarium, des observations du ciel et du soleil vous seront proposées. Enfin, si vous souhaitez connaître le programme détaillé de ces deux journées, vous pouvez consulter le site internet du planétarium sur le www.planétarium-galilée.montpellier-aglo.com. On ouvre notre page culture avec le festival Bédarieux Voix d'Orgue qui aura lieu dans la ville du même nom du 7 au 10 août prochain. Et pour nous en parler, nous accueillons dans nos studios Jean-Paul Clément et Joël Drouin. Bonjour.
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 Jean-Paul, de votre côté, vous êtes le président du centre Paul Rabaut qui était avant appelé Centre d'études polyphoniques et organistique. Alors avant de commencer cet entretien sur le festival, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce changement de nom ?
En quelques mots, oui. Au départ, donc, comme ce centre avait pour ambition de réunir autour des trois orgues de Bédarieux un espace culturel autour de l'orgue, nous l'avions donc appelé Centre d'études polyphoniques et organistiques. Et par hommage à la famille Rabot, originaire de Bédarieux, dont Paul a été le pasteur pendant de nombreuses années, avant d'être nommé sur Nîmes, nous voulions lui rendre hommage puisque notre siège social est au temple de Bédarieux. Et un de ses fils, notamment, a participé de façon très active à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'était un motif supplémentaire pour rendre cet hommage à la famille Rabot.
Donc Jean-Paul Clément, aujourd'hui, pour vous accompagner, Joël Drouin. Donc vous êtes le conseiller artistique pour les musiques actuelles. Et donc, tous ensemble, nous allons parler du festival Bédarieux Voix d'Orgue. Alors, avant d'en parler plus, on va évoquer le site où se déroulent ces 4 jours de fête. En effet, Bédarieux se situe à l'ouest de l'Hérault, environ à 1 heure de route de Montpellier. Mais ce qui est unique, en plus de ce beau paysage héraulté, c'est la présence des 3 orgues dont vous parliez tout à l'heure, dont 2 classés au monument historique. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons que le festival a élu domicile dans cette ville de seulement 6800 habitants, il y a peu, puisque vous en êtes à la 2e édition du festival?
Tout à fait, puisque nous souhaitions mettre à l'honneur ce patrimoine organistique de Bédarieux. Et nous voulions aussi dépasser le seul aspect patrimonial et orgue rituelique, si vous voulez, pour ouvrir l'orgue à des musiques beaucoup plus actuelles. Mais Joël, qui est à côté de moi, vous en parlera beaucoup mieux que moi, avec cette année l'accordéon, avec l'orgue à mot. Mais je ne veux pas monopoliser la parole.
Justement, Joël, donc du 7 au 10 août, 7 concerts vont animer le festival. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette programmation qui va apparemment du classique au jazz?
Bien sûr. Juste une petite précision par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je ne suis pas le seul conseiller artistique de ce festival. Je suis le conseiller artistique pour tout ce qui concerne les musiques actuelles, et c'est-à-dire à peu près la moitié de la programmation du festival. C'est Paul Rodier qui, pour des raisons personnelles, n'a pas pu nous accompagner aujourd'hui pour présenter la partie classique, parce que lui est responsable de la programmation de la partie classique. Mais je vais vous en parler quand même. Le 7, jour de l'ouverture du festival, aura lieu un concert duo de chanteuses et accompagné par, évidemment, une organiste. Ce sont des artistes parisiens. Une soprano, une mezzo. La soprano étant Anne Rodier, la fille de Paul Rodier, qui aurait dû être là aujourd'hui. Sacha Attala pour la voix de mezzo et Françoise Levechin-Gangloff pour l'accompagnatrice à l'orgue. Voilà, premier concert d'ouverture du festival.
Il s'agira de musique du 19e siècle, donc plutôt tournée vers le baroque.
La deuxième journée, jusqu'à la fin du festival, il y aura 2 concerts par jour. Un concert à 17h et un concert à 21h. Là, le concert de 17h, on a choisi de programmer quelqu'un qui s'appelle Pierre Charial et qui est le plus grand organiste de Barbarie. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui fabrique ses cartons d'orgue de Barbarie. C'est là, du coup, on a dépassé un petit peu l'orgue traditionnel. C'est un instrument de musique mécanique, hein, tout simplement. Des cartons perforés qui passent à l'intérieur, mais ça, tout le monde le connaît, l'orgue de Barbarie. Le problème, c'est que c'est pas un orgue de Barbarie de marché, comme on peut en rencontrer dans les animations de rue, etc. C'est un vrai instrument avec des tuyaux, avec. C'est assez impressionnant. On l'a appelé, on lui a demandé de venir, tout simplement parce que lui, avec ses cartons perforés, il n'est pas propriétaire d'un genre musical. Ses cartons vont de Mozart à Chic Corea, comme il aime intituler son concert d'une heure et quart. De Mozart à Chic Corea, c'est toute une histoire, tout un programme.
Je me permets d'ajouter pour les amateurs que lors de ce concert, il y aura une grande surprise. Je ne peux pas la dévoiler, sinon ce ne serait pas
une surprise,
mais... Je peux simplement indiquer qu'il y aura le concerto en sol de Handel entre l'orgue de Barbarie et peut-être l'orgue classique de l'église Saint-Alexandre.
Du concert du soir, voilà. Donc ça, c'est pour l'après-midi. Le soir, concert d'orgue solo avec Marc Chiron, qui est un excellent spécialiste de cet instrument. Alors lui, c'est à l'église Saint-Louis.
Saint-Louis, oui. Et je peux ajouter là aussi... Il a été finaliste en 2000 du concours international de Chartres d'orgue, concours qui est à l'orgue ce que sont que des victoires de la musique pour la variété.
Donc vraisemblablement un super concert. Le lendemain, on sera le 9 à 17h, le concert d'un duo qui s'appelle Voy Voy, un nom un peu énigmatique. Ce sont deux musiciens qui sont autant des musiciens improvisateurs que des musiciens classiques, que des musiciens de musique traditionnelle. Ils empruntent au répertoire de musique classique, je dirais classique contemporaine, leur répertoire dont ils s'approprient un peu toutes les données harmoniques, etc., pour en faire un terreau d'improvisation et de jeu de musique d'Europe centrale. Ça, c'est une particularité. Ce qui justifie aussi d'ailleurs complètement l'intitulé de notre festival qui est « Du baroque au jazz, du savant au populaire ». On y tient à cette étiquette-là.
On tient à la diversité musicale du festival.
Donc le duo Voy Voy est un peu représentant de ça. Donc ce concert à la Tuilerie à 17h. Le soir à 21h, concert d'orgue et de trompette.
Au pluriel, trompette, puisque à l'orgue, on retrouve Marie-Cécile Lahore, qui est d'ailleurs titulaire d'un orgue à Montpellier, Thierry Micalet, qui est un trompette aussi, et Frédéric Michelet, qui est le deuxième trompette de l'Orchestre National de Montpellier. Donc, ce devrait être un beau feu d'artifice sonore.
Et donc, le dernier jour du festival, qui se trouve être le samedi, en après-midi, quatuor vocal, cette fois avec les deux chanteuses qu'on aura entendues le jour de l'ouverture, c'est-à-dire Anne Rodier et Sacha Attala, mais accompagnées de deux autres chanteurs, des hommes, un ténor et un baryton, qui se trouvait plutôt baryton basse d'ailleurs, oui. Sébastien Aubrecht et Florian Westphal. Toujours accompagnés à l'orgue par Françoise Levechin-Gangloff. Ça, c'est à 17h à l'église Saint-Louis.
La particularité de ce concert, c'est qu'il y aura, comment dire, la fusion avec les voix et Bach. Donc Bach pour l'orgue et les voix, donc la moitié du concert sera consacrée à des quatuors de Bach au niveau des voix.
L'essentiel du programme sera autour de ça. Et puis le soir, pour clôturer le festival, le soir à la Tuilerie, à Médarieux, donc toujours, un concert d'un trio de jazz qui s'appelle Trio Open Gate. Et l'organiste qui est un des musiciens de jazz français spécialiste de l'orgue Gamon, puisque là on retrouve l'orgue mais dans sa version moderne, électrique, on va dire, que l'organiste s'appelle Emmanuel Bex et les deux autres musiciens, saxophoniste qui s'appelle Francesco Barzati et le batteur qui s'appelle Simon Goubert, qui sont des musiciens très très connus dans le monde du jazz.
Nos auditeurs l'auront compris, ce festival s'articule autour de l'orgue, mais sur une programmation très variée. Et vous, personnellement, Joël et Jean-Paul, quel concert vous conseilleriez? Quel est votre coup de cœur de cette année?
Il y a deux réponses à votre question. Est-ce que je dois donner une réponse tout à fait personnelle ou bien est-ce que je dois inciter les spectateurs à un maximum d'ouverture par rapport aux musiques qui sont présentées? En ce qui me concerne, le concert d'orgue pur du jeudi 8 août à 21h, pour l'avoir écouté, donc venir travailler sur l'orgue de Saint-Louis, de Marc Chiron, me paraît pour les amateurs d'orgue un concert d'une difficulté extrême, d'une qualité vraiment importante. Pour les amateurs de jazz, on ne peut pas passer à côté d'Emmanuel Bex à l'orgue Gamon et de Barzati et Goubert. Donc je conseille de faire aller son cœur et sa raison première et sa formation, mais d'essayer de s'ouvrir, c'est le but de notre festival, et je pense que là ils auraient vraiment deux concerts de très haut niveau. Je ne veux pas fâcher les solistes femmes et hommes, mais je charge Joël de dire tout le bien qu'il pense d'elle.
Donc, moi qui ne suis pas un spécialiste de musique classique, pour avoir entendu Anne Rodier et Sacha Attala l'an dernier, puisqu'elles étaient présentes déjà toutes les deux au premier festival de l'été dernier, excellente, excellentissime chanteuse, avec des voix extraordinaires, non seulement des voix, des techniques vocales, mais aussi une émotion terrible qui passe. J'ai quand même oublié une petite chose tout à l'heure quand on a parlé de l'orgue d'église et de l'orgue Gamon. L'orgue de Barbarie est un dérivé des orgues précédents. Et l'accordéon aussi, en fait. L'accordéon, c'est un instrument qui fonctionne exactement sur les mêmes principes et les mêmes bases physiques, c'est-à-dire de l'air qui passe à travers des tuyaux et qui fait vibrer une petite hanche métallique. Et voilà, dans cette optique-là, on peut développer la descendance, encore aller beaucoup plus loin, ce qu'on fera peut-être l'année prochaine, d'ailleurs.
Je dois ajouter à ce que vient de dire Joël, pour vos auditeurs nombreux qui nous rendront visite, que les concerts de musique classique, donc orgue seul, orgue avec voix, sont en vidéo et retransmis sur grand écran à l'intérieur des églises. Donc les spectateurs peuvent voir la difficulté du jeu de l'orgue et peuvent voir l'orgue et les voix sur grand écran pour ceux qui le souhaitent. Donc on vit vraiment le spectacle en totalité.
Jean-Paul, vous parliez tout à l'heure donc de l'importance d'ouverture par ce festival. Alors, est-ce que justement cette programmation s'adresse à tous ou est-ce qu'au contraire il faut être initié ou même mélomane pour pouvoir apprécier ces concerts et ces festivités ?
C'est une forme de reproche qui peut nous être fait et que nous avons du mal à accepter. Parce que précisément, nous n'avons pas voulu rester dans l'orgue traditionnel ou au moins l'image qui est donnée de l'orgue traditionnel. Nous avons voulu ouvrir et je peux vous dire, sous l'expérience de l'an dernier, que la diversité des programmes que l'on propose permet à chacun, initié ou pas, de prendre beaucoup de plaisir à venir écouter ces concerts.
Et le plaisir, il passe également, j'imagine, par les animations gratuites que vous proposez dans les rues, mais aussi au temple de Bédarieux. C'est aussi une façon pour vous justement d'initier tout le monde ?
Une façon d'ouverture bien sûr, puisque pendant les 3 jours, le 8, le 9 et le 10 août, dans le temple de Bédarieux, il y aura une exposition sur les orgues en général et les orgues de Bédarieux en particulier, avec conférences, avec diaporamas. Et de 11h à midi, les composantes du Centre d'études polyphoniques et organistiques livreront leur plaisir de la musique, puisque nous aurons le jeudi 8 août le groupe Au Gré des Rencontres, qui fait partie du CEPO et du Centre Paul Rabaut, avec voix, orgue, trompette, orgue, tout ça amateur bien sûr, et clarinette, orgue. Le vendredi 9 août, nous aurons un duo que j'ai du mal à vous présenter puisque le pianiste est à côté de moi, il s'agit de Joël Drouin et la chanteuse et son épouse, donc ils nous régaleront de leur chanson d'aujourd'hui. Et le samedi 10 août, c'est le groupe Aventure, un groupe de voix d'hommes qui fait partie aussi du centre, qui donnera un mini-concert de demi-heure, trois quarts d'heure, entre 11h et midi.
Et plus personnellement, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans l'orgue ?
L'orgue est un orchestre à lui seul. Vous pouvez en faire un instrument solo, vous pouvez en faire un ensemble avant, vous pouvez en faire un orchestre complet et total. C'est d'ailleurs pour ça que pendant des siècles, il a été interdit dans les églises, puisqu'il était un instrument pratiquement du diable, depuis les Romains qui s'en servaient pour les jeux du cirque, etc. Et donc il y a eu toujours cette réticence par rapport à l'orgue qu'on retrouvait dans les foires, qu'on retrouvait, etc. Et puis progressivement, il s'est cultualisé. Après ces deux périodes de rejet et de cultualisation, nous avons souhaité le faire sortir de ses faux repères pour en faire un instrument pour tous.
Il faut dire également, on n'en a pas parlé, donc que vos concerts, donc ils se déplacent un petit peu dans le temple, il y a aussi les deux églises.
Oui.
C'est un choix, j'imagine, de votre part, de ne pas rester ancré dans un seul lieu pour créer peut-être une atmosphère ?
Tout à fait. Et je crois qu'en plus, lorsqu'on reçoit le trio Pinguet, il serait malvenu de le mettre dans une église, ne serait-ce qu'en termes de sonorité. Hein. Je voudrais juste ajouter un tout petit mot. Pour le jeudi 8 août, le concert avec Pierre Charial, qui était programmé à l'église Saint-Louis, aura lieu à l'église Saint-Alexandre. C'est uniquement pour un problème de diapason entre l'orgue de Barbarie et l'orgue classique.
Les lieux se prêtent aux conditions techniques ou non ?
Voilà, tout à fait.
Simplement ajouter, puisque la question a été posée dans les rues, qu'est-ce qui se passe ? On a un orgue de rue, qui est une espèce de meuble énorme, qui sera positionné sur une place de la ville et qui va jouer quasiment toute la journée pour les gens qui vont passer, pour les gens qui vont s'arrêter à la terrasse du café, prendre un pot, l'apéritif ou un autre café. Il y a aussi le duo Voivod qu'on va retrouver à la Tuilerie à 17h le 9 et qui la veille, c'est-à-dire le 8, va arpenter les rues de Bédarieux, les terrasses de café et les apéritifs de restaurants, qui va animer les terrasses en fait. Ça, c'est le 8. Et comme il se trouve qu'il joue d'un instrument transportable, l'accordéon et le violon, ce sont des instruments qu'on peut porter avec soi. Du coup, comme ils aiment énormément aussi la musique populaire, les musiques traditionnelles, ils vont nous régaler sur les terrasses des cafés.
Pour finir, si nos auditeurs souhaitent en savoir plus ou retrouver simplement le programme, où est-ce qu'ils peuvent s'adresser? Est-ce qu'il y a un site internet, un numéro de téléphone, quelque chose?
Alors, ils peuvent s'adresser à l'Office du tourisme, qui est un partenaire important de notre association, de même que la municipalité de Bédarieux, évidemment, que je ne saurais oublier, puisqu'elle est notre soutien, notre partenaire, aussi bien technique que financier. Donc, ils peuvent s'adresser à l'Office de tourisme de Bédarieux. Nous avons un site que je vous indique, qui est www.bedarieux-voidorgue.com.
Et l'Office de tourisme, numéro de téléphone 04 67 95 08 79. Juste aussi un petit mot peut-être pour remercier les gens qui nous ont permis financièrement de pouvoir réaliser ce festival, donc évidemment la ville de Bédarieux, mais aussi le département de l'Hérault et aussi le conseil régional du Languedoc-Roussillon, ce qui est quand même important, ainsi que les différents sponsors que sont le Marcory, Paul Boyer et REC, qui sont des entreprises situées à Bédarieux et qui nous permettent de faire des tarifs intéressants. D'ailleurs, on n'a pas parlé du tout des prix des tickets d'entrée, mais on peut le dire rapidement. 10 euros chaque concert, passe 4 qui est à 30 euros, et un passe total qui est à 50 euros.
Le message est passé. Alors, Joël Drouin et Jean-Paul Clément, vous étiez donc avec nous pour nous parler du festival Bédarieux Voix d'Orgue, qui a lieu donc du 7 au 10 août prochain. Merci beaucoup d'avoir été sur FM+.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Enfin, théâtre avec celui de la chocolaterie. Et pour les retardataires qui n'auraient pas encore vu un camping nommé désert, eh bien, pour l'avoir vu, je vous conseille de ne surtout pas manquer les dernières représentations de cette pièce, mercredi et jeudi prochain. Car qu'on se le dise, avec l'été, l'arrivée des vacanciers dans les campings devient monnaie courante. Enfin, peut-être pas pour celui de la mode bleue. Un camping familial implanté depuis 40 ans qui se fait depuis cette année voler la vedette par un camping de luxe nommé le Bleu Sud. La guerre est donc déclarée. Mais que va bien pouvoir entreprendre Jean-Jérôme pour sauver son établissement? Pour le savoir, c'est direction le Théâtre de la Chocolaterie de Montpellier, mercredi et jeudi soir à 21h. Et pour vous donner un avant-goût d'un camping nommé désert, je vous propose d'en écouter la bande originale, simplement nommée Acacia.
Je me sens seul quand je suis seul. Je me sens bien quand on est bien. Mon cœur est comme une cheminée. Quand je te vois, il fait de la fumée. Mon cœur est comme un taxi. Quand tu es là, lui il ralentit. T'as les fesses qui sentent les acacias. Si tu pèses, j'y glisserai mes doigts. T'as les fesses grosses comme des ananas. Si tu blesses, moi je deviendrai quoi? t'as les fesses qui sentent les acacias. Si tu baisses, j'y serai mes doigts. T'as les fesses qui sentent les ananas. Si tu me laisses, moi je deviendrai quoi. T'as les fesses qui sentent les acacias. Si tu baisses, j'y serai mes doigts. T'as les fesses qui sentent les ananas.
C'était donc Acacia, la chanson tirée d'un camping nommé Désert. Cette pièce est à retrouver mercredi et jeudi à 21h au Théâtre de la Chocolaterie. Et pour en savoir plus ou encore réserver vos places, c'est sur le www.lachocolaterie.org. Mais vous pouvez également appeler le 04 34 40 11 78. Notre émission La Fourchette de l'Actu est désormais terminée. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. De votre côté, si vous souhaitez connaître l'actualité de la radio, vous pouvez vous rendre sur notre site internet le www.fmplus.org ou encore aimer notre page Facebook. Enfin, sachez que les podcasts de toutes vos émissions en général et de La Fourchette de l'Actu en particulier sont disponibles sur notre site internet également. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle fourchette de l'actu. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. C'était La Fourchette de l'Actu.